de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie de la RRI, diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, pour le moment de fin d'année, nous allons vous présenter un programme spécial de kaléidoscope général et un certain nombre de programmes tels que le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le kaléidoscope général. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix d'Indonésie et de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voicenews.id.
Chers auditeurs, nous continuons le kaléidoscope général de juillet à décembre 2023.
À juillet, le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, est allé à Sydney, en Australie, du 3 au 5 juillet 2023. La visite du président Jokowi à Sydney a pour but d'assister à la 8e réunion annuelle des dirigeants australo-indonésiens. Les deux dirigeants ont discuté des domaines de coopération dans le cadre du partenariat stratégique global ainsi qu'en approfondissant les relations et les opportunités commerciales et économiques pour les deux pays grâce à la transition vers zéro carbone. Depuis l'Australie, le président indonésien Joko Widodo a poursuivi sa visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour assister le 5 juillet au premier forum d'affaires entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée à la PECOS en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans son discours, le chef de l'État a encouragé le débat de l'accord commercial préférentiel PTA Indonésie, PNG, afin que la coopération économique entre les deux pays continue de croître et de se développer. L'Indonésie et la PNG ont un potentiel économique assez important, la frontière entre les deux pays atteignant plus de 800 km. La réunion de l'Assemblée OMS-CRN s'est ouverte à Jakarta le 26 juillet. Les autorités de réglementation pharmaceutique de 11 pays membres du réseau de réglementation de l'Asie du Sud-Est de l'Organisation mondiale de la santé, ou abrégé en OMS-CRN, collaborent pour accroître l'accès aux médicaments et aux dispositifs médicaux à la région de l'Asie du Sud-Est. La réunion qui s'est tenue à Jakarta du 24 au 27 juillet 2023 a positionné l'Indonésie comme hôte de l'Assemblée OMS-CRN grâce au soutien du BPOM et du ministère indonésien de la Santé. Lors de la réunion, la collaboration entre les autorités régulateurs des médicaments a été discutée dans le contrôle de la qualité des médicaments, les normes de développement et de l'application, ainsi que la supervision des médicaments et autres produits médicaux. Le 27 juillet, le président indonésien Joko Widodo est arrivé dans la ville de Chengdu, en République populaire de Chine. Le président indonésien Joko Widodo a tenu une réunion bilatérale avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Au cours de la réunion, le président a apprécié le soutien de la Chine à l'Indonésie qui occupe actuellement la présidence de l'ASEAN. Le président Jokowi a également assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux mondiaux universitaires de la FISU Chengdu 2021 qui s'est tenue au stade du parc sportif du lac Dong'an à Chengdu, en République populaire de Chine. Le 17 août 2023 est l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie. Lors de la commémoration de cette année, une cérémonie a eu lieu pour commémorer les 78 secondes de la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie dans la cour du Palais Merdeka à Jakarta. Le thème national de la commémoration du 78e anniversaire de l'indépendance de la République d'Indonésie en 2023 et continuer à avancer pour l'Indonésie avancée. Le 20 août 2023, le président Joko Widodo a entamé une série de visites dans un certain nombre de pays de la région africaine, notamment au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique et en Afrique du Sud. Le président a déclaré que sa première visite dans la région africaine visait à renforcer la solidarité entre pays du Sud. Au Kenya, le président a rencontré le président de la République du Kenya, William Ruto, pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Le président a ensuite poursuivi sa visite en République unie de Tanzanie pour tenir des réunions d'affaires conjointes avec un certain nombre de dirigeants d'entreprises en Tanzanie. Ensuite, le président Joko Widodo a visité la République du Mozambique pour tenir une réunion bilatérale avec le président de la République du Mozambique, Filipe Nyusi. De la République du Mozambique, le président indonésien Joko Widodo est arrivé à Johannesburg, République d'Afrique du Sud. Le président a assisté au sommet BRICS Africa-Autriche et BRICS Plus Dialogue, le 15e sommet BRICS qui s'est tenu au Sandton Convention Center, Johannesburg, le 24 août. Le président indonésien Joko Widodo invite tous les pays en développement à s'unir et à lutter pour leurs droits, pour le progrès de leur pays. C'est pourquoi le président a déclaré que les pays membres de BRICS peuvent jouer un rôle important dans la lutte pour la justice du développement pour tous les pays du monde. Light Rail Transit, ou le train léger sur rail, ou abrégé en LRT, dans les régions de Jakarta, Bogor, Depok et Bekasi, ou Jabodetabek, a été inauguré par le président Joko Widodo le 28 août. Le président espère qu'une ligne LRT de 41,2 km sera construite avec un budget de 32,6 millions de rupias. Cela peut être utilisé par les habitants de Jabodetabek. L'Indonésie accueillera du 5 au 7 septembre 2023 le 43e sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN. Le 43e sommet de l'ASEAN a été officiellement ouvert par le président Joko Widodo au Centre des Congrès de Jakarta. À cette occasion, le président répond aux questions du public sur l'existence de l'ASEAN pour répondre aux défis mondiaux.
Memang,
En effet, ces derniers temps, j'ai souvent entendu des questions publiques concernant l'ASEAN. L'ASEAN sera-t-elle divisée et incapable de s'unir? Le navire ASEAN est-il capable de continuer? Votre Excellence, en ce bon moment, en tant que membre de la famille et en tant que président de l'ASEAN, je voudrais souligner que l'unité de l'ASEAN est encore bien maintenue à ce jour. L'unité ne doit pas être interprétée comme l'absence de divergence d'opinion. En tant que pays qui a des cultures, ethnicités, langues et religions diverses, pour l'Indonésie, l'unité est l'harmonie dans les différences, y compris les différences d'opinion. Parce que les différences d'opinion favorisent en fait la démocratie, montrant en fait que nous, en tant que famille, avons une position égale.
Sebuah harmoni dalam perbedaan, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat justru menyuburkan demokrasi, justru menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga memiliki kedudukan yang setara.
Pendant 3 jours, le sommet de l'ASEAN a tenu 12 réunions, produit 90 documents et un certain nombre d'accords concrets avec les pays partenaires. Le 43e sommet de l'ASEAN en séance plénière a également réussi à adopter 11 documents comprenant un document lié à la Concorde 4 de l'ASEAN, un document lié au thème des questions de l'ASEAN qui comprend des documents sur la protection des droits de l'homme et 9 documents liés à l'épicentre de la croissance. Le sommet de l'ASEAN a également abouti à des engagements pour 93 projets d'une valeur de 38,2 milliards de dollars américains et 73 projets potentiels d'une valeur de 17,8 milliards de dollars américains. Tout cela est le résultat de la tenue du Forum Indo-Pacifique de l'ASEAN, qui est l'événement phare du sommet. Après la cérémonie de clôture, le président Joko Widodo a remis le marteau pour la présidence de l'ASEAN au Laos, qui poursuivra la présidence de l'ASEAN en 2024. Le 11 septembre, Radio République Indonésia, ou RRI, a célébré son 78e anniversaire. La célébration de cette année a eu pour thème « Transformation multiplateforme vers une Indonésie avancée ». Le directeur principal de l'institution de radiodiffusion publique de RRI, Hendra Son, a déclaré que RRI s'engage à soutenir la réalisation de la vision d'une Indonésie dorée 2045. Selon lui, RRI continuera à présenter du contenu d'information qui ne se limite pas seulement aux émissions de radio, mais aussi à travers d'autres plateformes numériques comme l'application RRI Digital. Il espère, avec l'existence de plateformes numériques, que le public pourra continuer à profiter des émissions de RRI. Le 26 septembre, le président Joko Widodo a lancé la bourse indonésienne du carbone à la bourse de Jakarta. Le président a déclaré que c'est l'une des véritables contributions de l'Indonésie dans la lutte contre la crise climatique. Les bénéfices du commerce seront réinvestis dans les efforts de protection de l'environnement, en particulier en réduisant les émissions de dioxyde de carbone. Selon le président, l'Indonésie a un fort potentiel en matière de solutions basées sur la nature et est le seul pays dont 60% de la réduction des émissions de carbone proviennent du secteur naturel. Dans mes notes, il y a environ 1 gigatonne de crédits de carbone potentiel de dioxyde de carbone qui peuvent être capturés et s'ils sont calculés, le potentiel de notre bourse du carbone pourrait atteindre un potentiel de 3 000 milliards de roupies, peut-être même plus. Un très grand numéro, bien sûr. Cela deviendra une nouvelle opportunité économique durable et respectueuse de l'environnement, en phase avec la direction du monde qui se dirige vers une économie verte.
Nous passons à octobre. Le 2 octobre, le président Joko Widodo a inauguré l'exploitation du train rapide Jakarta-Bandung, KCJB, à la gare KCJB Halim, Jakarta. Dans son discours, le président a déclaré « Le train rapide Jakarta-Bandung a vécu une vitesse de 350 km par heure et le premier service de train à grande vitesse en Indonésie et en Asie du Sud-Est. Le train s'appelle WUS, signifie Waktu Hemat Operasi Optimal System Hebat. Ou en français, gain de temps, fonctionnement optimal, excellent système. Le président a également déclaré ce train rapide est quelque chose de nouveau pour l'Indonésie.
Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita.
Ce projet de train rapide est quelque chose de nouveau pour nous. Nouvelle technologie, nouvelle vitesse et construction. Nouveau modèle de financement aussi et nous ne devons pas avoir peur d'apprendre et d'essayer de nouvelles choses. Et dans ce processus, des choses inattendues peuvent émerger. Difficultés sur le terrain, problèmes et imperfections. L'expérience coûte cher, mais très précieuse, et il ne faut pas avoir peur, car si nous sommes cohérents, il y aura moins d'erreurs, le coût des erreurs sera également plus réduit, et au final, les coûts de production, coûts de projet au fil du temps seront également inférieurs. Le 10 octobre, l'Indonésie a été réélue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ONU, pour la période 2024-2026, lors d'une élection qui a eu lieu dans la salle de l'Assemblée générale, siège de l'ONU, New York. Dans une déclaration reçue à Jakarta, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré lors du processus de décompte des voix. L'Indonésie a réussi à obtenir le plus grand nombre de voix. L'Indonésie a reçu le plus grand nombre de voix. Je répète, les voix les plus élevées par rapport aux voix obtenues par d'autres pays qui ont tous deux été élus membres du Conseil des droits de l'homme pour la période 2024-2026. L'Indonésie a reçu 186 voix sur un total de 192 voix. Retno Marsudi a expliqué que c'est la sixième fois que l'Indonésie est élue membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU après en avoir été membre en 2006, 2007, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2020, 2022. Les 10 et 11 octobre, l'Indonésie a tenu une conférence de haut niveau, sommet des îles et des pays insulaires à Nusa Dua, Bali. Dans son discours, le président Joko Widodo a déclaré « L'océan n'est pas un diffuseur, mais plutôt un unificateur et un ciment entre les îles et les pays archipels ». Selon le président, la tenue du sommet insulaire et pays insulaires constitue une bonne dynamique pour renforcer la collaboration entre ces pays. Le président a déclaré en tant qu'autres pays insulaires et insulaires, chaque pays est confronté à un certain nombre de défis qui sont interdépendants entre eux. C'est pourquoi le chef de l'État souligne l'importance de la collaboration. Par conséquent, la collaboration et la solidarité des pays archipélagiques et des États insulaires sont très importants pour produire des mesures stratégiques, concrètes et tactiques pour résoudre les problèmes communs. À cette occasion, le président a également exprimé l'engagement de l'Indonésie à continuer à faire preuve de cohérence dans l'expression des intérêts des pays de l'archipel et des pays en développement. Dans un certain nombre de forums internationaux, l'Indonésie s'engage également à préparer des fonds de subvention pour les intérêts des pays de l'archipel et pays en développement. Le 16 octobre, l'Indonésie a organisé le 5e Forum des affaires Indonésie-Amérique latine et Caraïbes à Jakarta. Dans son discours d'ouverture, vice-ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, Pahala Mansuri, a encouragé le Forum Indonésie-Amérique latine et Caraïbes à développer le commerce et coopération en matière d'investissement. Pahala Mansuri a également encouragé le forum à concentrer la coopération sur le secteur de la transition énergétique. En outre, l'Indonésie, l'Amérique latine et les pays des Caraïbes sont également considérés comme étant en mesure de jouer un rôle important dans l'industrie des véhicules électriques, car ils ont des réserves minérales importantes et abondantes, notamment nickel, cuivre, cobalt et lithium. Le 17 octobre, le vice-ministre des Affaires étrangères, Pahala Mansuri, a officiellement inauguré le Forum des Affaires Indonésie-Europe à Jakarta. Ce forum était une initiative du ministère indonésien des Affaires étrangères en collaboration avec la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie. Dans son discours, il a dit que c'était la première fois que le Forum des Affaires Indonésie-Europe se tenait et se concentrait sur 5 secteurs clés, à savoir les machines, l'électronique, les infrastructures de santé, les industries créatives et l'économie numérique. Le 19, la Commission électorale générale de la République d'Indonésie a officiellement ouvert l'inscription des candidats à la présidence et à la vice-présidence pour l'Indonésie, qui participeront aux prochaines élections générales de 2024. Les inscriptions sont ouvertes du 19 au 25 octobre. Toujours à la même date, le gouvernement indonésien et les banques multilatérales de développement, qui comprennent un certain nombre de banques mondiales de développement, ont officiellement mis fin au partenariat dans le cadre du programme d'assistance COVID-19 pour l'Indonésie. Le ministre de la Santé de la République d'Indonésie, Budi Gunadi Sadikin, a déclaré « Le ministère de la Santé a reçu un soutien de banques multilatérales de développement s'élevant à 1,75 milliard de dollars américains en fonds d'engagement pour gérer la pandémie de COVID-19 qui ont été fournis en 2020-2023. » par le biais de l'instrument de financement du programme pour les résultats. Budi Gunadi a expliqué que ces fonds ont été principalement utilisés pour contrôler la pandémie de COVID-19 pendant 1 an et 9 mois. Le 20 octobre, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré « l'ASEAN et le Conseil de coopération du Golfe sont deux grandes économies avec un avenir prometteur ». La ministre a déclaré « la croissance économique de l'ASEAN et du Conseil de coopération du Golfe l'année dernière était bien supérieure à celle moyenne mondiale ». 7,5% pour le Conseil des coopérations du Golfe et 5,3% pour l'ASEAN. C'est ce qu'a déclaré Ratno Marsudi dans une déclaration conjointe avec le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, Faisal bin Farhan Al Saoud, après le sommet de l'ASEAN et le Conseil de coopération du Golfe à Riyad, Arabie Saoudite, en présence du président Joko Widodo. Notre croissance économique l'année dernière a été bien supérieure à la moyenne mondiale, 7,5% pour le CCG et 5,3% pour l'ASEAN. C'est un bon capital pour l'ASEAN et le CCG pour accroître davantage leur coopération dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité, comme le reflète la déclaration conjointe du sommet du Conseil de coopération ASEAN-Golfe à Riyad et le cadre de coopération ASEAN-Conseil de coopération du Golfe 2024-2028. Le 1er novembre 2023, le président Joko Widodo a inauguré la construction de la capitale de l'archipel. L'aéroport IKN de nord de Penajam Pasir Nord, Kalimantan Oriental. La construction de l'aéroport devrait être achevée et pourra être utilisée en juin 2024 et pleinement opérationnelle en décembre 2024. Le 4 novembre, le président Joko Widodo a débloqué l'aide humanitaire du gouvernement indonésien pour les Palestiniens de Gaza à l'aéroport Halim Perdana Kusuma, Jakarta. L'aide comprenait 51,5 tonnes de nourriture et de matériel médical. Lors du déblocage de l'aide, le président Joko Widodo a déclaré ceci, l'aide était la première aide envoyée par l'Indonésie au peuple palestinien et était adaptée aux besoins urgents du peuple palestinien. C'est une forme de solidarité indonésienne, une forme de souci indonésien pour l'humanité, car la tragédie humanitaire à Gaza est inacceptable et doit être arrêtée le plus rapidement possible. Je tiens à souligner une fois de plus que l'Indonésie continuera à être aux côtés de la lutte des peuples palestiniens. L'aide indonésienne a été envoyée via deux aéroports, à savoir Halim Perdana Kusuma et Soekarno-Hatta. L'aide a été envoyée à l'aéroport d'El Arish, en Égypte, et sera acheminée vers Gaza, Palestine. Le président Joko Widodo a souligné que cette aide ne vient pas uniquement du gouvernement indonésien, mais aussi le monde communautaire des affaires qui est canalisé à travers les institutions humanitaires, telles que l'Agence nationale Amil Zakat Baznas, Croix-Rouge indonésienne, PMI et Kitabisa. Le président Joko Widodo a inauguré la centrale solaire de Tirata, PLTS, flottant dans la région de Purwakarta, Java occidentale, le 9 novembre. Dans son discours, le président a déclaré « La construction de ce PLTS est une forme d'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables. Dans le futur, le potentiel de PLTS flottant Tirata sera développé pour fournir de l'énergie à Java, Bali et Madura à grande échelle. Ce PLTS est le plus grand d'Asie du Sud-Est et le troisième au monde. La construction de ce PLTS est une collaboration entre l'Indonésie via PLN. C'est l'entreprise d'État d'électricité, Nusantara Power, et une société des Émirats Arabes Unis, Masdar Clean Energy. Le 10 novembre, le président Joko Widodo a inauguré le bureau de la Fédération mondiale de football, ou FIFA, à Jakarta. Ce bureau assurait la liaison pour les activités de la FIFA en Asie. La décision de la FIFA d'avoir un bureau à Jakarta, en Indonésie, et d'accompagner le processus de transformation du football en Indonésie. Le président Joko Widodo espère que la présence de la FIFA ouvrira un nouveau chapitre pour le monde du football indonésien. Le président Joko Widodo a assisté au sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique OCI à Riyad, Arabie Saoudite, le 11 novembre. À cette occasion, le président Joko Widodo a encouragé l'OCI à s'unir et à être à l'avant-garde dans la résolution de la crise à Gaza, en Palestine. Le 14 novembre, la Commission électorale générale, KPU, a nommé le couple Ganjar Pranowo et Mahfud MD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka et Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, comme couple de candidats à la présidentielle et de candidats à la vice-présidence en lice pour l'élection présidentielle de 2024. Cette décision a été prise après que le KPU a vérifié les documents et vu les résultats des tests de santé des trois couples. Le 15 novembre, l'Indonésie a accueilli la 17e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN à Jakarta. Dans le cadre d'une série de réunions, le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, avec les ministres de la Défense de toute l'ASEAN, à l'exception de la Birmanie, a redéfini les défis de sécurité et exploré les opportunités de coopération dans la région. La réunion a également souligné l'importance du maintien de la paix, stabilité, sécurité et de la liberté de navigation et de vol au-dessus des eaux de la mer de Chine méridionale. Le 20 novembre, le gouvernement indonésien a de nouveau envoyé de l'aide humanitaire à Gaza. Cette aide constituait la deuxième étape de la livraison après l'envoi des premiers secours début novembre. La distribution de l'aide a été effectuée depuis la base aérienne Halim Perdana Kusuma, Jakarta. À cette occasion, le président Joko Widodo a déclaré 21 tonnes d'aide ont été transportées par deux avions vers l'Égypte pour être ensuite distribuées à Gaza. Encore une fois ce matin, nous enverrons une aide à nos frères et sœurs de Gaza à hauteur de deux avions qui seront transportés pour un montant de 21 tonnes. Ceci sous format de médicaments, puis de matériel hospitalier, de nourriture et d'autres biens nécessaires conformément aux besoins de la population de Gaza. Toujours à la même date, l'Indonésie a accueilli une réunion parlementaire des pays membres du Forum consultatif Mexique-Indonésie, Corée du Sud, Turquie et Australie, MICTA. Lors de cette réunion, le Conseil représentatif du peuple de la République d'Indonésie a soulevé trois questions, à savoir le multilatéralisme, relance inclusive et transformation numérique. En outre, la 9e séance de consultation du président du MICTA du Parlement indonésien a également mis en lumière la question de l'intelligence artificielle. La session MICTA a produit une déclaration du président contenant l'engagement du Parlement des pays membres de MICTA à soutenir la création d'un monde pacifique pour les générations présentes et futures. Toujours le 20 novembre, l'indonésien a été désigné comme langue officielle utilisée lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou l'UNESCO. Cette décision a été prise lors de la 42e Assemblée générale de l'UNESCO à Paris, en France. Le 22 novembre, l'Indonésie accueillera le championnat du monde Acrobike Jet Ski 2023 sur le lac Toba, nord de Sumatra. Cette activité implique 4 districts en tant qu'organisateurs, à savoir le district de Toba, le district de Karo, le district de Dairi et le district de Samosir. Le 26 novembre, Radio République Indonésia, RRI, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, a tenu un dialogue de réponse au Parlement sur le thème « Encourager la participation des électeurs étrangers » qui a été diffusé à Jakarta. Le chef de Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie, Soleiman Yusuf, a déclaré « La réponse du Parlement » est un programme de dialogue qui fait partie du programme RRI Smart Voting Movement ou Gerakan Cerdas Memilih, dans le but d'accroître l'alphabétisation du public tant au niveau national qu'à l'étranger concernant la mise en œuvre des élections de 2024. Dans son discours, Soleiman Yusuf a souligné les problèmes potentiels qui pourraient survenir lors des élections à l'étranger. L'un d'eux concerne les défis auxquels est confronté le comité électoral à l'étranger PPLN à Hong Kong.
Yang kami temui saja, misalnya...
Ce que nous avons constaté, par exemple, c'est que le nombre d'électeurs indonésiens à Hong Kong est d'environ 164 000, mais le lieu de vote n'a été attribué qu'à un seul endroit, à savoir au consulat général indonésien, à Hong Kong. Même si c'était répandu là-bas, à Macao et ainsi de suite, imaginez 160 000 personnes arrivant en un ou deux jours au consulat général d'Indonésie. C'est un spectacle extraordinaire. Le dialogue Parlement-Réponse, où la réponse du Parlement a présenté des personnes reçues du commissaire de la Commission d'élection générale de la République d'Indonésie, KPURI, Betty Epsilon Idros, conseil d'administration de l'Association pour les élections et la démocratie, Titi Anggraini, membre de la Commission 11 du Parlement indonésien DPRI, Eriko Sotarduga, et membre de Commission 1 du Parlement indonésien DPRI, Christina Aryani. Nous passons à décembre. Le 1er décembre, l'Indonésie a été réélue membre de la catégorie C du Conseil de l'Organisation maritime internationale pour la période 2024-2025. Lors de la session de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale à Londres, Angleterre, Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré « Ces résultats montraient à reconnaissance mondiale de l'existence de l'Indonésie dans le secteur maritime international ». Selon le ministre, cela donnera l'occasion à l'Indonésie de participer à la détermination des politiques de l'Organisation maritime internationale qui ont une grande influence sur le monde maritime. Le 3 décembre, l'autorité de la capitale Nusantara a officiellement lancé la feuille de route pour une ville de zéro émission de carbone pour l'archipel, où une contribution déterminée au niveau régional et local lors de la réunion de la 28e partie de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï, Émirats Arabes Unis. Chef de l'autorité de la capitale Nusantara, Bambang Susantono, a déclaré que ce lancement était un moment historique car pour la première fois, une ville d'Indonésie avait une contribution déterminée au niveau régional et local. Bambang Susantono a également annoncé la stratégie Nusantara Zero Emission de carbone, un document montrant l'engagement de la ville pour participer à l'effort mondial d'accélération de l'action climatique. Le 14 décembre, le ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative et l'agence spéciale des Nations Unies pour l'Organisation mondiale du tourisme ont fait du Bud dans la région de Gianyar Bali, une destination du tourisme gastronomique de classe mondiale. Cela a été transmis par le député chargé des produits et activités touristiques. Organisateur du ministère du tourisme et de l'économie créative de la République d'Indonésie, Vincentius Jemadu, à Ubud. Selon Jemadu, le tourisme gastronomique d'Ubud ne concerne pas seulement la nourriture ou les délices culinaires, mais couvre également des aspects plus larges, y compris l'histoire, les valeurs de sagesse locale, les traditions et la mode de vie de la communauté locale concernant les délices culinaires traditionnelles. Le 16 décembre, le président Joko Widodo et le premier ministre japonais Fumio Kishida ont salué l'achèvement des négociations de fond sur le protocole visant à modifier l'accord de partenariat économique Indonésie-Japon, IGEPA. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que les deux dirigeants ciblent ce nouvel accord IGEPA qui sera mise en œuvre au cours du premier trimestre 2024. Retno Marsudi a expliqué avec le protocole d'amendement de l'IGEPA, l'Indonésie peut obtenir un certain nombre d'avantages, notamment un meilleur accès au marché indonésien au Japon et un soutien à l'industrie indonésienne pour devenir une base industrielle de la région. Avec ce protocole d'amendement de l'IGEPA, l'Indonésie peut tirer plusieurs avantages, notamment l'amélioration de l'accès au marché indonésien au Japon, y compris l'élimination des droits de douane sur les produits de la pêche transformés indonésiens, puis l'élargissement de l'accès au marché bancaire et la collaboration avec le nouveau MIDEC ou le Centre de développement industriel manufacturier qui peut aider l'industrie indonésienne et devenir une base de production régionale. Retno Marsudi a expliqué que l'Indonésie et le Japon ont entamé le processus de négociation du protocole d'amendement de l'IGEPA depuis 2019. Selon elle, actuellement, les deux pays mènent un processus de nettoyage juridique pour égaliser le contexte linguistique juridique. Une fois ce processus terminé, un processus de traduction et de ratification sera effectué au Parlement selon les procédures de chaque pays. Bon, cher Joïtard, c'est tout pour le Kaléidoscope Général de 2023.
Voice of Indonesia.
Cher Joïtard, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Cher Jolitar, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter attraction touristique au point 0 km de l'Indonésie. Peut-être que certains pensent que le point zéro en Indonésie se trouve uniquement à Sabang. Il s'avère qu'il existe de nombreux points zéro kilomètres répartis dans diverses régions d'Indonésie. Le point zéro kilomètre est toujours marqué dans un monument ou dans un petit copain. L'existence du point zéro kilomètre dans plusieurs régions d'Indonésie est généralement utilisée comme référence pour mesurer les distances dans les villes et les pays. En outre, le point zéro kilomètre sert également de référence pour le développement d'une zone. Il est intéressant de noter que presque toutes les zones où se trouve un monument du point zéro ont leur propre attraction touristique. L'un des points zéro kilomètres les plus récents se trouve dans la capitale nationale ou IKN de l'archipel. En 2022, le gouvernement a inauguré un monument de 50 cm de haut pour marquer le point zéro kilomètre. Ce point zéro se trouve dans le district de Samboja et le district de Sepaku, Penajam Pasir du Nord, Kalimantan Oriental. Devient une référence en infrastructure de développement de la nouvelle capitale de l'Indonésie, le monument de 0.0 km de l'archipel commence à attirer les touristes curieux du développement de IKN. En plus de voir le monument de 0.0 km dans l'archipel, vous pourrez également profiter de l'air frais et de la montée d'adrénaline sur la colline Bengkirai à Kutai Kartanegara. Si vous voulez voir la culture typique Dayak qui est encore bien préservée, vous pouvez venir au village touristique de Pampang dans la ville de Samarinda ou près de l'aéroport APT Pranoto. Ici se trouve la maison traditionnelle Betang qui est la résidence de la tribu Apokayan Dayak. Situé à la pointe orientale de l'Indonésie, le point zéro kilométrique de Merauke est proche de la frontière indonésienne avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le point zéro kilomètre, vous trouverez un monument assez grand qui indique 0 km Merauke-Sabang. Si vous êtes en vacances à Merauke, vous devriez prendre le temps de visiter le monument à la capsule temporelle qui a été récemment inauguré par le président Joko Widodo. Ce monument se trouve à Alun-Alun KLP 5, Merauke. Ce monument contient les rêves des enfants indonésiens de Sabang jusqu'à Merauke. Ce rêve a été écrit en 2015 et sera inauguré en 2085. Vous pouvez également voir des kangourous à Merauke, précisément dans le parc national Wasur, dans le district de Sota à Merauke. Cette zone du parc national est également habitée par 4 tribus indigènes, à savoir la tribu Kanume, la tribu Yenan, la tribu Marori Meng et la tribu Marin. Chers amis, c'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Voice of Indonesia.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Voici l'Indonésie en couleur dont le titre est le film Trinity Traveller attire l'attention du public au Mikta Film Festival 2023 en Turquie. Le film Trinity Traveller, réalisé par Rizal Mantovani, a réussi à attirer l'attention de centaines de téléspectateurs lors du Mikta Film Festival 2023 au Panorama Mall en Turquie. Pas moins de 200 personnes ont rempli le cinéma pour profiter de l'aventure légère mettant en vedette Maudie Ayunda et Hamish Daoud. Dans son discours, l'ambassadeur d'Indonésie en Turquie, Ahmad Rizal Purnama, a révélé que le cinéma était un outil diplomatique efficace pour promouvoir un pays. On espère que le film touchera les jeunes Turcs, les aidant à connaître et à comprendre les pays membres de MICTA. MICTA est un forum consultatif entre 5 pays, à savoir le Mexique, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Turquie et l'Australie. Le film Trinity Traveller avec Maudie Ayunda et Hamish Daoud choisit un thème d'aventure légère et met en valeur la beauté naturelle et le tourisme de l'Indonésie. L'histoire est facile à comprendre et universelle, ce qui la rend bien accueillie par la société turque, en particulier par les jeunes. L'un des téléspectateurs, Ozan Tazkoparan, 17 ans, a déclaré que regarder le film indonésien en Turquie était une opportunité rare. Avec ses amis, ils ont décidé de regarder le film après avoir appris que le film racontait les aventures des jeunes. Ozan a apprécié le festival de films MICTA car il offrait un divertissement cinématographique alternatif en dehors des options cinématographiques européennes ou hollywoodiennes. En plus de Trinity Traveller, le festival présente également des films d'autres pays MICTA, notamment Museo du Mexique, Sonaksam Yemegi de Turquie, Stormboy d'Australie et Miracle de Corée du Sud. Avant la projection du film, une réception a eu lieu à laquelle ont participé de nombreux invités et diplomates étrangers. Le festival de films MICTA se tiendra les 22 et 23 décembre 2023 dans le cadre de la semaine MICTA sous la présidence de l'Indonésie en 2023. Outre le festival de films MICTA, l'Indonésie a également lancé la tenue du forum stratégique MICTA présentant des intervenants des pays MICTA en Turquie le 21 décembre 2023.
Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Chers auditeurs, aujourd'hui je vous donne une chanson traditionnelle de Bali intitulée Madecheni. La chanson Madecheni a un rythme agréable et très populaire parmi les enfants et adolescents balinais. Les fragments de chaque parole et la mélodie de la chanson sont de manière unique, ils sont donc faciles à mémoriser et sont souvent chantés comme une berceuse. Les paroles de Madecheni contiennent des valeurs philosophiques sur la vie sociale des adolescents de Bali, contenant des réflexions pour la jeune génération de Bali pour vivre. Bon, chers auditeurs, voici Emoni dont le titre est Madecheni de Bali. Bonne écoute!
Jening jening mai dema pelayanan di rurongnya. Jening jening liu motor gruang grueng di margine. Kaden subah sebilang wai tutoren memelan bapa apang tu sing cara. Madecheni lilek montor di bisanya, lilek montor di bisanya, montor badung kekianya, montor badung kekianya, gede bagai muat batu, batu Cina, baes lantang cunguh bara, baes lantang cunguh bara, mangum mangum bang ijo dar, mangum mangum bang ijo dar, ijo dar mata tulup.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voines.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voines.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.